Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis très heureux de vous retrouver en direct et jusqu'à 16h pendant une heure. Et comme chaque jour, je suis accompagné de ma chère Ombline. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Bonjour Olivier,
bonjour
à tous.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de vos expériences. Car comme vous le savez, Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Montessori, Freinet, l'école démocratique. Depuis quelques années, l'engouement pour les écoles alternatives se confirme. D'après la Fondation pour l'école, leur nombre aurait même été multiplié par 4 entre 2011 et 2018. Les parents qui font ce choix pointent souvent les limites de l'école traditionnelle, qui instaurerait trop de compétition entre élèves, une certaine peur de l'échec et beaucoup, beaucoup d'ennuis. À l'inverse, dans les écoles alternatives, la pédagogie serait moins cadrée et laisserait plus de liberté aux enfants et aux adolescents, plus à même de développer leur autonomie comme leur créativité. Les écoles alternatives sont-elles accessibles à tous? Quels bénéfices les enfants en tirent-ils? Écoles alternatives, pourquoi ce choix? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute sur Europe 1, le 3921, le standard. Vous le composez, n'hésitez pas, 3921, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous savez qu'il y a Twitter aussi avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Lionel sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lionel.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Eh bien, j'ai 48 ans, je vous appelle depuis Paris Centre.
D'accord. Alors Lionel, vous êtes le père de Sarah, qui est âgée de 8 ans. Elle a d'abord été scolarisée dans un établissement classique, mais vous dites qu'elle ne s'y sentait pas vraiment bien. Expliquez-moi pourquoi.
Alors en fait, c'est depuis le CE1, donc Sarah est en CE2 actuellement, elle vient de terminer, passe en CM1. Depuis le CE1, on a senti des angoisses monter, des petites choses, un peu des signaux faibles au départ, et puis des choses qui devenaient un petit peu plus préoccupantes pour nous, des difficultés à s'endormir le dimanche soir, la peur d'oublier ses leçons, toutes les petites histoires entre copines bien naturelles, mais qui prenaient un peu d'importance pour Sarah, sans pression de particulière de notre part. On l'accompagne en tant que parent avec ses devoirs, avec toutes ses interrogations naturellement, mais voilà, alors, notamment les devoirs, c'était devenu une vraie bataille. Et puis dans les petites choses qu'on remarque, notamment en préparant l'émission avec vous, bon, on se souvient ses crayons mâchouillés jusqu'à l'encre, ses ongles rongés, un niveau d'anxiété quand même qui était palpable. On l'a aidé avec des psychologues, des orthophonistes qu'on a vu pour gérer son stress, mais bon, oui. C'était là en tout cas bien palpable. Et pour autant, elle avait des bonnes copines, des bons bulletins, et j'ai rien à reprocher aux maîtresses qu'elle avait à l'époque. C'était juste inadapté, en tout cas, on le ressentait. Nous, notre volonté en tant que parents, c'est d'apporter le meilleur à nos enfants.
Vous avez alors entendu parler de Lab School, une école qui met en avant une pédagogie différente. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce programme que Lab School vous proposait?
Alors, c'est le projet dans sa globalité. Je vais revenir. En fait, depuis la maternelle, on est sensibilisé à ces pédagogies. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Montessori. Vous l'avez cité tout à l'heure. On a aussi ma sœur qui s'inspirait de la pédagogie de Montessori dans sa classe en maternelle, en école publique. Donc, finalement, assez proche de tout ça, on a pu observer des enfants qui suivaient ces enseignements. On se disait qu'ils avaient quand même pas mal de chance, et on aurait bien imaginé notre Sarah par rapport à son caractère, par rapport à la manière dont on se projetait pour elle. On pense que chaque enfant est unique dans notre monde aujourd'hui qui bouge chaque jour un peu plus vite, et il nous a semblé que cette école, la Lab School, donc à Paris, qui fait partie d'un réseau en fait des Lab School qui est international, pourrait aider Sarah et tous les enfants à développer leur singularité, si je peux dire.
Oui. Et vous avez l'impression, ça fait 6 mois hein, qu'elle est maintenant inscrite. Quelles sont les principales différences entre cet établissement et son ancienne école? Et est-ce que vous avez l'impression que votre fille s'y sent bien mieux, qu'elle progresse?
Oui. Oui, c'est indéniable. En fait, c'est dès le matin, dès qu'on rentre en classe, ça commence avec la porte grande ouverte, avec des échanges avec les gardiennes de l'école, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas avec les maîtresses qui sont là pour nous accueillir, où on nous invite à venir déjeuner le midi avec elle également. Donc là, c'est un savant mélange entre les enfants, les enseignants,
les parents dans
cette école, et ça c'est intéressant pour au quotidien, pour suivre nos enfants. Il y a aussi un nombre d'élèves par niveau et par classe qui est différent. La Lab School Paris sont 26 élèves cette année, mais ils partagent 2 maîtresses, et donc c'est multiniveau, multilangue, multiprofil, beaucoup de mixité. Ils sont 6 élèves pour le CE2, donc forcément ça change la donne. Après il y a beaucoup de choses autour de l'éveil.
Elles s'y sentent bien donc depuis 6 mois?
Ouais, et nous aussi on s'y sent bien. Et ça, dès la première journée de test qu'on a pu faire avec avec eux dès le soir. Elle voulait abandonner la précédente école et continuer son expérience. Elle s'y sent mieux et nous aussi, on vient de recevoir son bulletin de fin d'année. C'est la première fois qu'elle a envie de le partager avec les grands-parents, avec la famille. Elle lit mieux, elle écrit mieux, elle connaît ses tables de multiplication comme tous les élèves de stage là. Et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les crayons ils sont plus mâchouillés.
Oui,
on n'a pas à refaire la trousse toutes les semaines. Les devoirs, parce qu'il y a encore des devoirs le week-end, il n'y en a plus le soir. Ça, c'est une grosse différence également qu'on a en tête. Il n'y a plus cette contrainte et cette épreuve des devoirs le soir. Il y en a le week-end, mais ça devient un moment ludique et aussi la manière dont les devoirs sont donnés. Donc oui, elle est épanouie. Elle a retrouvé le plaisir d'apprendre pour moi et d'interagir aussi avec le monde qui l'entoure, avec les maîtresses qui sont plus vécues comme quelque chose, un point dur, mais finalement quelque chose qui va... une personne aidante dans sa scolarité. Quoi.
Ce qui est quand même essentiel. Donc cette petite va mieux. Vous dites qu'inscrire votre fille dans cette école, on l'a compris, c'est devenu un projet où professeurs, enfants, parents participent. J'entends comme si c'était devenu un projet de famille parce que vous allez mieux en même temps que votre fille va mieux. Est-ce que vous pensez que Sarah retournera dans l'enseignement classique au collège ou au lycée par exemple ?
Nous, le principal objectif, c'est d'avoir Sarah heureuse et épanouie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'idée de la ramener dans l'enseignement classique. L'école où elle est, à la Lab School, elle peut continuer jusqu'à la troisième. Il y a d'autres expérimentations en cours qui permettent d'aller plus loin, jusqu'au bac notamment. Donc c'est des démarches qu'on va suivre de très près. Et tant qu'on peut l'accompagner sur ce chemin-là, écoutez, tout va bien. Tout ce qu'on se dit, en tout cas, c'est tout ce qui est pris n'est plus à prendre. On n'angoisse pas un retour vers le classique s'il était devenu nécessaire ou obligatoire pour différents mouvements qu'on pourrait avoir. Il y a d'ailleurs des élèves qui l'ont fait, accompagnés par les maîtresses de la Lab School aussi. Et ma foi, ça a l'air de bien se passer.
Très bien, merci beaucoup Lionel. Vous embrasserez votre fille de notre part. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Isée. Elle est inscrite au lycée autogéré de Paris. Et on va voir comment elle a vécu cette expérience.
Europe 1. Comme Lionel, vous avez choisi un établissement scolaire hors contrat, mais qui met en avant une pédagogie alternative. Vous témoignez au 3921. Vous êtes enseignant, élève, parent, on parle des écoles alternatives. Vous avez choisi une scolarité différente pour votre enfant, un établissement qui propose des activités, des savoirs en adéquation avec ses capacités du moment. Vous êtes avec Olivier Delacroix, 3921, pour témoigner.
Et nous accueillons maintenant sur Europe 1 Isée. Bonjour, soyez la bienvenue, Isée.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Isée ?
J'ai 17 ans et je vous appelle du lycée autogéré de Paris, dans le 15e.
D'accord. Alors, vous venez d'achever votre première année dans ce lycée autogéré de Paris.
Ma deuxième année.
Votre deuxième année. C'est-à-dire votre année de première L, hein, plus précisément. Vous venez de finir cette première année, en tout cas cette année de première L. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de ce lycée ?
Bien sûr. Alors, assez rapidement, le lycée autogéré de Paris fonctionne sur deux grands principes. Qui sont donc l'autogestion, c'est-à-dire qu'il y a un partage des tâches où les profs et les élèves accomplissent ensemble à la fois tout ce qui est tâches administratives, ménage et ce genre de choses.
Oui.
Et les décisions qu'on doit prendre pour le lycée sont également votées avec des profs et des élèves dont la voix compte de la même manière.
Oui.
Et notre deuxième grand principe, c'est la libre fréquentation, c'est-à-dire que... on peut adapter notre cursus à notre projet. Par exemple, moi, j'ai pas fait de maths pendant mon année de seconde parce que je savais que je voulais aller en filière littéraire et que j'avais pas besoin d'en faire.
Ouais.
Par contre, cette année, je suis allée en anglais avec des terminales parce que c'était un niveau qui correspondait plus à mon niveau à moi.
Ouais.
Et donc voilà, c'est ces deux grands principes-là sur lesquels on se base. On a donc des activités scolaires, les cours traditionnels, français, sciences, etc.
Ouais.
Et les activités de gestion, où on a une plage qui s'appelle le groupe de base, qui est tous les mardis après-midi, où pendant 2 heures, on discute du lycée, on prend les décisions tous ensemble. Ça peut être des détails est-ce qu'on va accepter de recevoir quelqu'un dans l'établissement qui va venir en observation ou est-ce qu'on décide de changer une règle du lycée ou ce genre de choses. Et on a également une plage de commission qui est le jeudi matin pendant 2 heures aussi où chacun choisit soit d'aller faire à manger pour faire le repas midi, d'aller faire de l'administration où on remplit les papiers, etc. d'aller faire de l'entretien dans le lycée. On choisit de s'investir dans le lycée.
Donc, ce que j'entends, c'est que voilà, ce lycée porte bien son nom, autogéré. C'est que enseignant, élève, gère tout. Hein, que ça va dans ça va du bon fonctionnement administratif, la propreté, ce qu'on a à manger le midi, en même temps que les cours. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une entraide entre les élèves, puisque vous dites que vous êtes allé au contact d'élèves de terminale pour apprendre un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver tout le long de cette émission ce système d'échange et de vie en communauté, de partage des connaissances, ce qui est quelque chose qui scie à ces écoles dites alternatives. Vous venez d'enseignement classique, Isée. Pourquoi avoir choisi de vous inscrire dans ce lycée autogéré, pardon ?
Parce que pendant mon année de troisième, j'avais l'impression d'être extrêmement passive dans ma scolarité,
oui.
De pas réellement avoir de poids, de pas avoir de prise sur ce qui se passait dans ma scolarité, alors que ça prenait quand même la plus grosse partie de ma vie, on va dire.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose qui avait fini par me faire beaucoup de mal, où je réussissais. Enfin voilà, j'avais l'impression de venir le matin pour m'asseoir 8 heures en cours à écouter des profs qui avaient l'air de s'ennuyer à peu près autant que moi. Et de rien pouvoir, de pas avoir d'impact réel, de pas avoir de voix qui puisse être écoutée dans un établissement traditionnel. Et donc, je suis allée me renseigner assez rapidement sur les différents lycées qui existaient. Et je suis tombée sur le lycée autogéré, dont j'avais déjà un peu entendu parler par des connaissances, mais sans en avoir plus d'informations, on va dire. Et donc, quand je suis allée me renseigner un peu plus en détail sur le fonctionnement, sur... et en ayant aussi des retours de gens que j'ai rencontrés qui étaient, je me suis dit en fait, ça c'est un endroit qui peut me plaire et ça c'est un endroit où je me sentirais bien et c'est le cas.
On entend en tout cas que vous étiez dans une quête d'être investi un peu, en tout cas de ne pas être simplement passif devant cet enseignement, mais on entend que cela vous a apporté en tout cas en maturité, j'ai l'impression, parce que ce partage et cet investissement, eh bien là on n'est plus passif, on n'est pas là que pour apprendre. Ombline.
Oui, j'ai une question pour Isée, un petit peu plus terre à terre, vous avez connu en plus les deux systèmes. Est-ce que vous suivez, vous êtes en première, donc il y a la terminale qui arrive, le bac, est-ce que vous suivez le programme de l'éducation nationale pour vous préparer au bac? Est-ce que vous allez passer le bac classique et comment ça se passe quand on est dans un lycée autogéré pour l'inscription au bac?
Alors, on est un lycée, donc on prépare au bac, on est un lycée public, on prépare les trois filières générales. On prépare les trois filières générales et avec la réforme qui arrive, on va préparer différentes spécialités.
Mais c'est l'enseignement classique en fait. C'est l'enseignement comme dans un autre lycée. D'accord.
Voilà, exactement. On n'a pas exactement le même volume horaire sur certaines matières puisque les activités de gestion nous prennent énormément de temps. Mais on prépare le programme complet. Cette année, voilà, moi j'ai passé mes épreuves anticipées de français et de sciences. On a eu les résultats du bac là qui sont tombés il y a quelques jours pour nos terminales. Donc on prépare le bac dans nos cours de manière, en suivant le programme et en.
Alors. Et en... Moi j'ai une dernière question à vous poser qui me semble très importante. Vous dites aussi que le lycée autogéré vous a appris le droit à l'erreur. Expliquez-moi ça.
On est un lycée où on a beaucoup de gens différents, on a une vraie variété de profils, où souvent les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui ne se sont pas retrouvés dans un système traditionnel,
ouais.
et c'est des gens qui viennent de plein de milieux différents, et qui apportent, eux, plein de choses, et donc, notamment, juste en regardant l'âge des gens, on a des gens qui ont plusieurs... cette année, je crois que notre élève le plus vieux avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, c'est des gens qui ont des parcours pas forcément linéaires, c'est-à-dire qu'on nous a toujours appris qu'on faisait la primaire, le collège, le lycée, le bac, et après on faisait des études supérieures. Et en fait, on apprend, ici, je trouve que notamment en discutant avec des gens, parce que c'est très facile de parler avec les gens. On apprend qu'il n'y a pas un seul parcours qui est bon, qu'on peut toujours retomber sur ses pieds, trouver une solution, trouver des passerelles, recommencer, réessayer. Et c'est quelque chose qu'on applique aussi au sein de nos différentes activités où tant qu'on a la volonté d'apprendre et la volonté de bien faire, c'est pas grave de se tromper, on peut réessayer et c'est toujours fait dans la bienveillance. Et donc c'est un espace où on a beaucoup moins de pression et évidemment ça permet un apprentissage beaucoup plus riche et épanoui.
Et c'est très bien de voir qu'on apprend à cet âge à voir qu'il n'y a pas de parcours type et qu'on n'est pas obligé d'avoir son bac à 17 ans. Mille merci Isée pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Laurent Lesquarche. Il est maître de conférences en sciences de l'éducation et il est spécialiste de l'éducation nouvelle.
Marie nous écrit sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Pourquoi Marie est favorable aux écoles alternatives? Elle nous dit « L'école d'avant ne correspond plus à nos enfants d'aujourd'hui et le changement se fait pas ou très très lentement. »
Europe 1.
École Montessori, école démocratique, lycée autogéré. Pourquoi avez-vous choisi une école alternative pour la scolarité de votre enfant? Vous témoignez au 3921. Vous avez été déçu par l'école publique, la pédagogie des écoles classiques ne convient pas à votre enfant. Venez nous expliquer pourquoi vous avez choisi une école alternative. On vous attend sur Europe 1 au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Laurent Lesquarche, maître de conférences en sciences de l'éducation et spécialiste de l'éducation nouvelle. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne Europe 1.
Bonjour, merci
bonjour
de votre invitation.
Je vous en prie. Alors, ma première question porte sur les spécificités des écoles dites alternatives. Quelles sont-elles, ces spécificités, pour vous?
Alors, ça vient de très loin dans l'histoire, puis en même temps, là, il y a un retour aujourd'hui, c'est de contester les pédagogies traditionnelles de l'école qu'on est beaucoup à avoir connues, comme un peu ennuyantes, s'occupant pas trop des besoins des enfants, en fait, centrées sur le fait de vouloir à tout prix instruire, mais demandant moins quelle place pour les familles, pour éduquer, et ainsi de suite.
Oui. C'est-à-dire qu'on a un peu tous connu que ça, en fait. Hein.
Globalement, avec des variations, mais voilà, une école qui est centrée sur apprendre, mais apprendre au sens d'apprendre des savoirs scolaires, alors que je crois que ces pédagogies cherchent plus à éduquer de manière globale, en essayant de changer les méthodes, c'est-à-dire d'être plus sur faire vivre des expériences, de l'activité, des projets, et puis en misant plus peut-être sur la créativité de l'enfant, et en se disant que l'école, ça pourrait être aussi du plaisir, c'est-à-dire dans un collectif. Et ça fait une petite rupture. Et je crois que pour moi, le troisième point, si on a vraiment un troisième qui est essentiel, c'est que l'école traditionnelle prend l'élève, le sujet élève, et s'occupe pas trop de l'enfant qu'il y a derrière. Mm-hmm. Et je crois que toutes ces pédagogies prennent l'enfant en tant que personne.
Alors, dans ces écoles, comme vous l'avez souligné, ces écoles hors contrat, on ne suit pas les programmes déterminés par l'éducation nationale et on y favorise un apprentissage libre. Comme vous venez aussi de le dire, derrière l'élève, il y a l'enfant. Et j'ai l'impression que dans cette école, avec les adultes, ces adultes n'ont pas le même rôle de transmission que l'on attribue aux professeurs de l'enseignement classique. On a plus l'impression d'avoir des adultes qui transmettent en même temps qu'ils partagent et qui reçoivent de ces élèves. Et on a l'impression justement que cette confiance en l'enfant et en l'élève, elle est totalement différente.
Ouais, je crois que c'est un gros marqueur. Alors, il y a un malentendu, ce serait de croire qu'ils transmettent pas, c'est-à-dire que ces adultes transmettent beaucoup de choses, mais ils transmettent en faisant avec les enfants, en organisant les situations, c'est-à-dire selon les différentes pédagogies, hein, on va mettre en place des situations pour les, entre guillemets, les obliger à apprendre, mais parce qu'ils vont créer, ils vont faire, ils vont expérimenter. Et donc, en fait, c'est vrai que ce sont des enseignants, et c'est pour ça que c'est compliqué pour rentrer dans ces pédagogies, parce que c'est une toute autre formation, qui doivent penser d'abord à aménager un environnement pour que les enfants se mettent en activité. Mais par contre, ils transmettent, mais c'est un pédagogue qui s'appelait Dewey qui avait une formule qui disait toute leçon doit être une réponse à une question qu'on s'est posée. Et en fait, je crois que ces pédagogies font en sorte aussi que les enfants se posent des questions et c'est seulement à ce moment-là que les adultes transmettent. Ce qui change pas mal les choses, effectivement.
Ouais. Quelles sont les principales raisons qui poussent certains parents aujourd'hui à inscrire leur enfant dans ce type d'école alternative?
Je pense que là on a plusieurs registres de raisons selon. Là, il y a des personnes qui contestent complètement l'école traditionnelle pour des raisons politiques d'engagement et qui essaient de pour leurs enfants dans la continuité de leur propre éducation familiale d'avoir des modèles qui ressemblent plus à la manière dont ils souhaiteraient que leur enfant soit éduqué. Alors que nous, en France, en fait, on confie l'enfant à une institution et on n'a plus de prise. Donc, je pense que ça fait partie des choses. Et là, ce sont des parents qui sont extrêmement sensibles au fait que on respecte les rythmes de l'enfant, qu'on respecte leurs besoins, qu'il n'y ait pas de notes, que l'enfant soit à ce qu'on appelle au centre. mais avec aussi, d'une certaine manière, une forme de consumérisme scolaire. C'est-à-dire, on va choisir son école comme on a choisi sa nourrice, ce qui était une vraie rupture. Après, on a, et je pense que c'était un peu le cas des personnes que j'ai entendues juste avant, en tout cas, la première témoignage, il y a aussi des personnes qui ont des très mauvaises expériences effectives avec l'école traditionnelle, des enfants qui ont mal au ventre. C'est un système assez angoissant, l'école traditionnelle, quand on la vit pas bien. Et on a même beaucoup d'élèves qui se mettent à décrocher pour des raisons psycho-affectives. Et on a donc un courant aujourd'hui de familles qui vont dans ces écoles aussi pour retrouver des manières d'enseigner qui sont beaucoup plus adéquates et puis qui font moins violence, on va dire, à leurs enfants.
Alors justement, dans ces écoles, vous dites qu'ils font moins violence, mais l'éducation nationale aujourd'hui met en avant ces écoles alternatives, l'élève et l'enfant donc va très peu être exposé à la frustration, aux contraintes auxquelles il sera confronté plus tard dans sa vie d'adulte ou au travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce en quelque sorte une surprotection de ces élèves dans les écoles alternatives?
Alors moi je suis normand, je vous répondrai peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
C'est-à-dire
que je crois que c'est une image assez fausse parce que il y a plein de courants différents. Ça serait peut-être assez vrai pour certains courants très libertaires qui effectivement fixent peu de contraintes aux enfants dans la lignée d'un pédagogue qui s'appelait Neil.
Oui.
Mais dans la plupart des pédagogies alternatives que je connais, en fait c'est un cadre qui est extrêmement réglé, c'est-à-dire Freinet, qui est une figure connue au Montessori, les enfants dans ces classes ont énormément de rituels, de règles à respecter. Ils sont en permanence confrontés à la frustration, en fait, parce qu'ils ne font pas les choses comme ils veulent, quand ils veulent. Et ils apprennent, par contre, à devenir autonomes. Moi, je ne les vois pas comme surprotégés. Par contre, il y a une grande différence avec les pédagogies plus traditionnelles. C'est quand il y a des règles et des contraintes, c'est qu'elles ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire qu'elles sont posées comme nécessaires au vivre ensemble. Et donc, je pense que dans ces courants-là, en tout cas, il y a une exposition à la contrainte, à la frustration.
Oui.
Par contre, on les jette pas directement dans un milieu qui est contraint de manière arbitraire. Mm-hmm. C'est peut-être ça la différence et le malentendu parfois.
En tout cas, pour tous ces parents qui mettent leurs enfants dans des écoles alternatives aujourd'hui, démocratiques, Montessori, comme on les a nommées toutes, en tout cas une partie d'entre elles, il est certain que l'enfant se doit de faire un certain chemin et de choisir un projet, quel qu'il soit, et de le développer, ce projet. Et c'est une autre manière de préparer cet enfant au monde de demain, justement, et peut-être prendre un sens des responsabilités un peu plus tôt que dans ce chemin tout tracé par l'éducation nationale. Laurent Lesquarche, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation et spécialiste de l'éducation nouvelle. Vous restez avec nous, vous allez continuer à nous accompagner tout au long de cette émission. Dans un instant, nous accueillerons Yazid. Il a cofondé l'École démocratique, une école alternative située en plein Paris.
Europe 1. Que proposent les différentes écoles alternatives? Pourquoi avoir tourné le dos aux établissements scolaires publics ou privés sous contrat avec l'éducation nationale? Venez en discuter avec Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Yazid. Bonjour Yazid, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bonjour. Vous êtes le cofondateur, Yazid, de l'École démocratique, une école pour les enfants allant de 4 ans à 18 ans, située à Paris. Vous dites que le principe fondamental de cette école est l'égalité entre enfants et adultes. Expliquez-moi ça.
Alors effectivement, la conviction et l'ambition des gens qui ont fondé cette école était que... il était fondamental de remettre l'intérêt et l'épanouissement des enfants au centre de toutes les considérations.
Oui.
Et donc, à cet égard, notre conviction était que un épanouissement et un bonheur plein, total, ne peuvent passer que par le respect de la souveraineté de la personne des enfants et la reconnaissance de leur statut de personne à part entière.
Oui.
Et donc, c'est ça qui impulse, en fait, la dynamique de création d'une école démocratique, dont le principe fondamental, comme vous l'expliquez très bien, c'est que les individus qui composent le collectif, adultes comme enfants, donc de 4 à 18 ans, sont considérés comme des personnes à part entière, dotées des mêmes droits.
Oui.
Ça veut donc dire que les principes de fonctionnement généraux de l'établissement, des décisions qui sont prises en respectant les principes de la démocratie directe, donc que ce soit au niveau du règlement intérieur, que ce soit au niveau budgétaire, que ce soit au niveau des recrutements, des admissions, etc., etc. Toutes ces décisions sont prises en respectant les principes de démocratie, de transparence, d'égalité, en permettant du coup aux enfants de s'approprier pleinement leur existence, alors au niveau collectif, mais également au niveau individuel, parce que la contrepartie de ce principe-là, d'égalité, c'est évidemment un principe de liberté. C'est-à-dire que dans cet établissement, les adultes ont cessé d'avoir un projet pour les enfants. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui construisent leur parcours d'apprentissage souverainement, oui, en fonction de leur motivation, de leur rythme, de leurs besoins, en étant accompagnés par des adultes qui vont être dans une dynamique de facilitation d'apprentissage.
Ça veut dire que les enfants construisent librement leur parcours. Rien ne leur est imposé. Il n'y a pas de matière qui leur est imposée, par exemple.
Exactement, exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire, dans cette école, de partir de la conviction que les enfants sont des êtres humains naturellement apprenants. Oui. Ce qu'on constate, hein, un peu confusément dans notre entourage, avec nos enfants, etc., de 0 à 3-4 ans, c'est-à-dire en gros entre la naissance et l'entrée à l'école, les enfants apprennent toute une série de choses qui font qu'en entrant à l'école, ils sont déjà largement socialisés. C'est déjà devenu des agents sociaux à part entière, qui savent parler, qui savent marcher, qui savent interagir avec des personnes du monde social, etc. Et donc nous, ce qu'on considère, c'est qu'il est fondamental d'avoir des enfants qui pourraient continuer à faire vivre cet élan vital d'apprentissage et de créativité, ouais, sans faire l'objet de quelque coercition, de contrainte que ce soit.
Quel est le profil de ces enfants qui s'inscrivent avec leurs parents, donc que les parents inscrivent dans l'école démocratique, pardon. Tout le monde peut l'intégrer, cette école, aujourd'hui ?
Notre point de départ, c'est effectivement d'avoir une école qui, a priori, accueillerait tout le monde. Donc en fait, les portes ne sont pas fermées à qui que ce soit. Le seul critère pour nous qui semble très important, c'est qu'il faut que les enfants qui intègrent cette école prennent au sérieux les institutions de la vie démocratique, sans lesquelles la vie ici deviendrait évidemment compliquée, oui, dans la mesure où il y a une grande importance qui est accordée à la notion de responsabilité individuelle, oui, et collective. Oui. Si on a un respect et une autonomie vis-à-vis de ce principe-là, la personne est effectivement tout à fait bienvenue chez nous. Alors après, pour répondre à la question concernant les profils qui viennent chez nous, l'expérience tend à prouver que, dans leur grande majorité, les enfants qui s'inscrivent dans notre établissement sont des enfants qui, pour une raison ou pour une autre, ont eu une expérience de l'école classique, oui, plus ou moins malheureuse en fait, pour des, oui, raisons diverses. Oui. Ça peut être pour des raisons liées à des troubles de l'apprentissage, ça peut être pour des raisons liées à l'ennui, au harcèlement, à toute une série de motifs qui font qu'à l'arrivée, les enfants sont malheureux à l'école et par ricochet rendent la vie familiale difficile. Donc l'idée, c'est de leur offrir un environnement épanouissant, ils puissent enfin se développer à leur rythme et identifier ce qui va devenir potentiellement leur sujet d'étude, leur passion, leur métier, etc., etc., sans faire l'objet d'une contrainte exercée d'une manière arbitraire par un adulte.
Vous dites que vous avez souhaité fonder cette école car l'enseignement traditionnel retirait toute aptitude à choisir, justement. Cette notion vraiment très importante que l'enfant choisit, il est le maître de son destin à partir du moment où il arrive chez vous avec toutes les responsabilités dont vous avez parlé. C'est une chose à laquelle vous avez été vous-même confronté pour avoir cette idée de créer cette école ?
Alors, à titre personnel, justement, je pense que ça va être le cas de beaucoup de fondateurs d'écoles démocratiques ou des gens qui y travaillent. Oui. L'idée de venir travailler ici répond d'une certaine manière à un parcours personnel. Alors, le mien, ce n'est pas du tout celui de quelqu'un qui a souffert particulièrement à l'école. J'ai plutôt le profil de quelqu'un qui a réussi à se mettre en adéquation avec les injonctions de la compétition scolaire. Oui. J'ai fait une première scientifique, un bac avec mention bien, j'ai fait une prépa, j'ai intégré HEC. Et après ça, du coup, je me suis lancé dans une carrière de consultant en stratégie. Et c'est précisément à ce moment-là que des interrogations au niveau sur l'institution scolaire ont commencé à se faire jour dans mon esprit. Dans la mesure où je me suis retrouvé à faire un métier dans lequel je n'étais pas spécialement épanoui. Ouais. Et dans lequel, honnêtement, je m'ennuyais passablement. Mmh. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à la conclusion que tous ces efforts que j'avais pu consacrer effectivement à l'école m'avaient amené finalement à travailler dans un univers où j'avais la perception de n'être maître de rien et de faire des choses qui n'étaient pas spécialement utiles pour la société ou épanouissantes pour moi. Et donc c'est là où a commencé un petit peu à émerger en moi ce questionnement sur l'école, auquel j'ai trouvé une réponse qui a été l'éducation démocratique.
Alors, l'école démocratique fait des portes ouvertes régulièrement. Beaucoup de parents viennent vous voir de plus en plus. Donc, ils peuvent vous trouver facilement sur Internet. L'école démocratique est dans le 19e. Et puis, il y en a une deuxième. Je crois que vous êtes 3 ou 4 à Paris. Merci beaucoup, Yazid, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Aurélie. Elle considère que l'école traditionnelle ne lui a rien appris et a décidé d'inscrire ses deux enfants justement dans une école école alternative.
Europe 1. Vous avez souhaité que votre enfant étudie dans une école à pédagogie particulière. Vous nous racontez au 39 21 50 centimes la minute.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Pourquoi avez-vous choisi une école alternative ? C'est quoi la différence avec les écoles dites classiques ? Venez échanger avec Olivier Delacroix, vous composez le 39-21.
Et nous accueillons maintenant Aurélie. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Aurélie, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Aurélie ?
J'ai 40 ans, je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous dites que le système scolaire classique ne vous a rien appris, à vous, en tant qu'élève.
Pouvez-vous... C'est un peu excessif, mais oui.
Voilà. Et vous avez deux enfants qui ont passé leur première année de vie à l'étranger. Là-bas, ils n'étaient pas scolarisés. Est-ce que, voilà, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé à l'étranger ? Vous vous organisiez comment pour, justement, par la suite, on va voir que vous les avez inscrites, vous les avez inscrites dans des écoles alternatives. Mais est-ce qu'à l'étranger, là, lorsqu'ils n'étudiaient pas, ils étudiaient, mais avec vous, qu'ils n'étaient pas scolarisés, est-ce que déjà il y a eu quelque chose, les prémices d'autres choses que l'école traditionnelle ?
Oui, enfin, il y a évidemment d'autres écoles, mais comme c'est l'étranger, les systèmes scolaires sont différents partout. Et même là-bas, il y avait déjà des prémices, oui, d'écoles qui voulaient vraiment aller vers quelque chose de plus libre, où les enfants pouvaient se respecter et être plus respectés dans leurs apprentissages.
D'accord.
C'est vrai qu'en arrivant à Paris, quand j'ai vu l'école dynamique dans le 14e, en fait, ça a été un petit peu... J'ai vu ça, je me suis dit, c'est exactement en fait la conclusion ou le résumé de mes recherches par rapport à mon parcours à moi.
Oui.
Et ce que je voulais pour mes enfants, c'est un peu un coup de bol ou une rencontre après un chemin de beaucoup de recherches et de beaucoup de questionnements. Parce que pour moi, c'était impossible de répéter. Enfin, j'avais l'impression que si je mettais mes enfants dans un enseignement classique, je répétais exactement ce qui s'était passé pour moi il y a 30, 35 ans. Et comme ça n'a jamais vraiment eu de sens pour moi et que j'ai réussi, j'ai pris un peu la tangente, je me suis dit, je ne vois pas vraiment le but pourquoi mes enfants devraient revivre quelque chose qui ne m'a pas nourri.
Vous dites que ce choix a été fait pour garder leur désir intact. Alors, ils sont aujourd'hui à l'école dynamique. Je sais que ce désir est donc resté intact. Expliquez-moi, c'est quoi l'école dynamique et comment elle arrive à faire grandir ce désir et faire que les élèves vivent tout à fait autre chose ?
Le désir dans la vie, ça me paraît complètement fondamental. Si vous n'avez pas de désir, il n'y a rien.
Ouais.
Pour moi, s'il n'y a pas de désir, c'est la mort. Et je pense qu'au niveau des apprentissages, mais même au niveau des apprentissages de son corps, en fait, de ce qu'on a, de qui on est, de son âme, depuis qu'on est né, et de notre, j'ai envie de dire, de ce qu'on va faire sur cette terre, je trouve que c'est des écoles qui permettent de préserver ça le plus tôt possible, parce que les enfants ne sont pas forcés dans quelque chose qui ne les intéresse pas.
Ouais.
Ils y vont vraiment avec ce qui les touche, ce qu'ils ont envie, enfin, par rapport à leur,
ouais,
à leur
ils
caractère.
Décident,
à leur
ils décident. Concrètement, une journée type, s'il y en a, une journée type à l'école dynamique, c'est quoi ?
Il n'y a absolument pas de journée type. Et alors moi, un truc que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'en fait, on dit, il y a quelque chose dans l'inconscient des gens. On dit « école libre », c'est l'anarchie, c'est le chaos, pas du tout.
Non, pas du tout.
Il y a un cadre qui est très clair. Justement, il y a parfois un cadre qui, je trouve, est plus clair que dans la société, en général, mais ou dans les écoles.
En tout cas, il y a un respect des règles, il y a un respect de l'autre, il est certain, dont j'ai entendu parler, et que l'on retrouve dans ces écoles où le respect de l'autre est beaucoup plus une des règles fondamentales de ce type d'école.
Vraiment, et surtout, ce n'est pas simplement dit, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont faites. Et qui sont claires et que tout le monde respecte.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, il y a un système d'appel. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se sent pas respecté, harcelé, quand on crie trop fort. Il y a des règles de communauté, de vie, qui sont vraiment appliquées. Et en fait, les adultes qui sont là pour les enfants, qui sont pas forcément des enseignants, qui ont pas forcément des diplômes d'enseignants, sont d'abord là pour faire respecter ces règles. Et puis, en second plan, ils sont là pour, quand il y a une demande d'un élève qui dit, voilà, moi j'ai envie de faire des maths, j'ai envie de faire du français ou autre, moi j'ai envie de me promener au parc aujourd'hui, ou j'ai envie d'aller voir une expo parce que, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, les adultes sont là pour accompagner les enfants dans leur démarche.
Mais ouais, comme Lionel nous le disait au début de cette émission, on a l'impression que c'est une aventure même de famille, familiale, parce que voilà, là où l'enfant prend son destin en main, hein, quelque part, et où les adultes qui sont encadrants à l'école l'aident à se réaliser dans ce projet, les parents aussi sont très importants dans ce système, puisque voilà, ils participent aussi, ils sont actifs au cœur de cette école. Alors, je rassure tous ceux qui nous écoutent, ils ne sont absolument pas contraints, mais pour ceux qui ont envie de prendre part à cette aventure, où leurs enfants voilà, passent une partie de leur journée, eh bien, ils le peuvent. On a l'impression qu'on y retrouve les règles de la communauté, du respect et du partage. Merci en tout cas Aurélie pour votre appel et votre témoignage. Malheureusement, le temps nous presse. Et pour conclure cette émission, nous accueillerons dans quelques instants Anne, qui, avec son fils de 11 ans, fait l'expérience d'une école Montessori aujourd'hui. Et Anne va nous raconter comment ça se passe.
Europe 1. Vous avez étudié dans une école alternative, c'est le choix que vous avez fait pour la scolarité de votre enfant. Vous nous expliquez au standard d'Europe 1 le 39-21. Pourquoi vous avez choisi une école alternative pour la scolarité de votre enfant? Vous nous expliquez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et avant d'accueillir Anne, qui va nous parler de l'expérience de son fils de 11 ans, qui a intégré une école Montessori Jeune Pousse, j'ai une dernière question pour vous, Laurent Lesquarch. Concerne le prix de ces écoles. La plupart de ces écoles ne reçoivent pas de subvention de l'éducation nationale, elles sont donc payantes, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas accessibles à tous. À combien s'élèvent les frais de scolarité en général, même si je pense que cela varie d'une école à l'autre?
En fait, ça dépend vraiment des politiques des écoles. Bon, globalement, comme elles sont autofinancées, c'est au minimum 2 à 3 000 euros et ça peut monter jusqu'à 10 000, par exemple, pour certaines.
Ouais.
Par contre, je pense que comme il y a un projet politique pour certaines, comme c'était bien expliqué tout à l'heure par l'intervenant, je sais que certaines écoles ont des politiques de frais en fonction des moyens des familles. Mais d'autre part, je pense aussi que les écoles alternatives, c'est pas que les écoles privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'enseignement public, il y a des pratiques alternatives. Je pense à Freinet, ça s'est développé dans le public. Aujourd'hui, ils développent des pratiques Montessori dans le public. Et en fait, toutes les pédagogies alternatives sont pas non plus hors contrat. Voilà. Donc effectivement, les écoles totalement extérieures à l'éducation nationale sont assez chères, hein, et difficiles, entre 2 et 10 000.
Oui.
Mais il y a quand même aujourd'hui une évolution de l'éducation nationale. Faudrait pas laisser croire qu'elle est totalement monolithique. Et ces pratiques, nous, au niveau recherche, on voit qu'elles sont en train de se diffuser aussi et de se redévelopper à l'intérieur même de l'éducation nationale, notamment beaucoup en maternelle ou dans ce qu'on appelle les pédagogies coopératives.
Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, de savoir que l'éducation nationale a enfin compris que peut-être d'autres élèves aspiraient à une autre forme de connaissance, d'apprentissage. Et comme vous le disiez, certaines initiatives aujourd'hui sont relayées par l'éducation nationale. Nous accueillons maintenant Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anne?
Pardon?
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
40 ans, de Paris.
D'accord, de Paris. Alors, votre fils de 11 ans, lui, est dans une école Montessori Jeune Pousse. Comment ça se passe? Et pourquoi?
Dans une école Montessori.
Pourquoi l'avoir mis à Montessori exactement?
La question ne s'est même pas posée. Moi, je savais que je voulais un système éducatif différent pour mon enfant.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que les écoles Montessori, déjà à l'époque, mais même aujourd'hui, répondent très très bien aux besoins des enfants. Donc, liberté de mouvement.
Anne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous déplacer, vous mettre dans un endroit qui capte? Parce que, en fait, j'entends un mot sur deux.
Vous m'entendez bien, là?
Là, je vous entends mieux, en fait. Voilà. Je crois avoir décelé chez vous un petit accent anglo-saxon, américain.
Oui.
C'est ça?
Tout à fait.
Donc, vous avez connu aussi déjà, avant d'arriver en France, une autre forme d'éducation, me semble-t-il.
Oui, je suis moi-même issue de la pédagogie Freinet, dont parlait la personne avant moi, donc qui est vraiment très intégrée dans le système public.
La pédagogie Freinet,
oui. Ouais, partout dans le monde, c'est une pédagogie qui est très facile de mettre en place. Parce qu'il n'y a pas tout la partie coût et matériel qui implique la pédagogie Montessori.
Comment ça se passe pour votre fils de 11 ans? Et je vous demande de vous déplacer encore un tout petit peu. Là, c'était un petit peu mieux, mais on peut améliorer.
Là, vous m'entendez mieux.
Ah, parfait, voilà. Comment ça se passe pour votre fils de 11 ans à Montessori? Vous retrouvez un peu ce que vous aviez vécu, vous, à Freinet?
Oui. Écoutez, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. C'est quand même des bisounours.
On a beaucoup de difficultés à vous comprendre, Anne, malheureusement. Bon, en tout cas, les écoles Montessori font aussi partie aujourd'hui ces réseaux alternatifs, même si les écoles Montessori le sont de moins en moins et qu'elles sont assez répandues sur tout le pays. Et elles font le bonheur, en tout cas le soulagement de beaucoup de parents qui aujourd'hui cherchent un enseignement alternatif, en tout cas autre chose dans ces écoles. Et je sais que, voilà, on peut parler de soulagement, Ombline.
Oui, on parlait d'argent avec Laurent Lesquarche tout à l'heure. La question que je voudrais vous poser, Laurent, les écoles et lycées alternatifs sont hors contrat. Après le bac, pour s'inscrire dans les grandes écoles, les étudiants sont souvent sélectionnés avec leur dossier. Est-ce qu'on ne part pas avec un handicap quand on a suivi une scolarité dans un établissement alternatif? Avec les notes. Si on n'a pas suivi un programme...
Voilà. La question est piège parce que, par exemple, le mouvement Montessori met en avant que de grands noms aujourd'hui d'industriels sont passés par des écoles Montessori. Alors, c'est certainement de savoir à quel moment les personnes retournent dans le circuit. C'est des pédagogies qui préparent à des compétences transversales beaucoup plus fortement que les pédagogies scolaires. Donc, moi, je crois qu'en général, les élèves se réadaptent assez bien. Se réadapte assez bien, mais comme un élève de maternelle, quand il arrive en CP, il vit une très grosse rupture, il faut qu'il se réadapte. Donc, c'est des enfants qui se réadaptent assez bien. Mais par contre, effectivement, là, sur les scolarités à très long terme, à l'université, là, la question se pose vraiment, parce que jusque-là, c'était des pédagogies très marginales. Certaines écoles alternatives étaient très connues pour être des préparatoires à des grandes scolarités. Mais là, nous avons une multitude de nouvelles écoles qui, elles, n'ont pas de réputation. Donc je crois que c'est une bonne question que vous posez, mais à laquelle je n'ai pas franchement la réponse aujourd'hui.
En tout cas,
je crois qu'elle est essentielle. Ouais.
En tout cas, ces écoles alternatives préparent au mieux ces enfants qui ont choisi autre chose. Et vu que l'éducation nationale aujourd'hui se prête à l'exercice aussi à travers Freinet, on peut penser que tout ça va évoluer. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Laurent Lesquarche. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation et spécialiste de l'éducation nouvelle. Merci pour vos éclairages. Merci à Anne, à Yonel, à Isée, à Yazid, et à Aurélie pour leur témoignage. Alors, les écoles alternatives ont le vent en poupe, on l'a vu, et s'implantent partout en France. La pédagogie et les méthodes qu'elles mettent en avant poussent à interroger les limites du système scolaire classique. Si elles vantent l'autonomie et la liberté de l'enfant, certains s'interrogent sur la capacité de ces écoles à préparer l'enfant à vivre dans une société qui, obligatoirement, ne ressemblera pas vraiment à ce qu'il a connu au sein de cet établissement, pour peu que voilà, ça soit autre chose et qu'il y retrouve aussi dans cette autre vie, après bien ce qu'il a connu dans ces écoles alternatives. Si vous souhaitez vous renseigner sur ces écoles alternatives, il existe bien évidemment tout un tas de renseignements dans des guides, dans des annuaires, sur Internet, et vous pouvez continuer à évoquer cela sur les réseaux sociaux.
Oui, à échanger entre vous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de sophrologie, un ensemble de pratiques censées apprendre à maîtriser son stress et ses émotions. Alors, si vous avez consulté un sophrologue pour des problèmes de sommeil ou une meilleure maîtrise de vos émotions. Si vos enfants ont consulté un sophrologue, appelez-nous au 3921 dès maintenant pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous et il est bientôt l'heure de retrouver l'excellente Karima Charny jusqu'à 18h pour 2 heures de musique.
Exactement, bonjour.
Ah, je sens que vous êtes en pleine forme.
Absolument, en plus de ça, aujourd'hui on reçoit une artiste talentueuse, prometteuse, une véritable révélation. Chila sera mon invitée.
Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école? J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école.
On va apprendre à la découvrir, bien entendu, écouter des extraits de son album. Et bien sûr, l'antenne est ouverte aux auditeurs d'Europe 1. Ils sont les programmateurs. Voilà, c'est le programme de musique.
Nous sommes avec vous jusqu'à 18h, Karima Charny. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et bien évidemment, je vous retrouverai demain à partir de 15h. Au revoir.